Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Fobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Abdoul Kader Konaté.
À la une de l'actualité, au moins 12 présumés terroristes ont été tués par l'armée, dont le chef Tidiane Djibrilou Diko, jeudi dernier à Tongomayel, dans le Soum. Nous en parlons dans ce journal. Le commissariat départemental de Yaba, dans la province du Nayala, lui a été attaqué par des hommes armés dans la nuit du 27 au 28 mai. Nous faisons le point également. L'AS Douane, sacré vainqueur de la Coupe du Faso 2022 en venant à bout de l'Union Sportive La Comoé, 1-0. Bonjour et bienvenue. Une douzaine de présumés terroristes, dont le chef Tidiane Djibrilou Diko, ont été tués par des frappes aériennes de l'armée burkinabé jeudi dernier à Tongomayel, dans le Soum, a confirmé ce lundi à Omega Media, une source sécuritaire. Pour en savoir davantage, je reçois pour vous Lamine Traoré. Lamine Traoré, bonjour.
Bonjour Kader.
Alors Lamine, pouvez-vous nous dire davantage sur cette frappe donc de l'armée burkinabé qui a neutralisé 12 présumés terroristes, dont Tidiane Djibrilou Diko, un des chefs terroristes?
Oui, Kader, il s'agit donc, l'information est d'abord révélée par l'agence d'information du Burkina et par la suite, Omega a pu donc joindre des sources sécuritaires, a pu rentrer en contact avec des sources sécuritaires qui confirment effectivement que une douzaine de présumés terroristes ont été donc neutralisés, c'est leur terme, mais tués, si vous voulez, dans donc des frappes, ce sont plusieurs frappes donc dans cette région du Sahel, c'est dans le Soum, dans la province du Soum, à Tongomayel. C'était donc depuis jeudi dernier et c'est aujourd'hui donc que l'information donc a été confirmée. Et selon notre source sécuritaire, ça a été un travail particulièrement minutieux des services de renseignement. Et le présumé chef terroriste Tidiane Djibrilou Diko, selon plusieurs de nos sources, est responsable aussi de nombreuses attaques ayant occasionné de nombreux morts, comme une quarantaine de morts dans une attaque à Selgadji. C'est même d'ailleurs la localité, le village natal de ce présumé chef, ce présumé cadre terroriste. Donc, en janvier 2020, il y a eu une attaque qui avait fait une quarantaine de morts. Et toujours selon l'agence d'information du Burkina, en juin 2021, les leaders terroristes avaient donc quitté les rangs de l'État islamique au Grand Sahara pour rejoindre le GSIM, c'est le groupe de soutien à l'islam. Et donc, le groupe de Tidiane Djibrilou Diko, ce cadre terroriste, est également responsable de plusieurs embuscades meurtrières sur l'axe Bourzanga-Djibo, selon donc toujours le média, l'agence d'information du Burkina. Donc, ces informations sont confirmées par nos sources sécuritaires. Omega donc a pu joindre pas mal de sources sécuritaires qui confirment que il y a une douzaine de présumés terroristes dans le cadre terroriste.
Alors, Lamine Traoré, est-ce qu'on peut dire que nous assistons donc à une montée en puissance donc des forces de défense et de sécurité burkinabè?
Oui, on pourra le dire ainsi, même si les actions ne sont pas véritablement visibles. Nos sources sécuritaires le disent. C'est vrai que l'armée communique peu, c'est ce qu'elles nous disent, ces sources. L'armée ne veut pas beaucoup communiquer et elle reconnaît qu'elle ne communique pas suffisamment. Mais quand on regarde les dernières actions, les dernières opérations de l'armée, notamment à Bourzanga, il y a quelques semaines, où 39 présumés terroristes donc avaient été neutralisés, c'est dans la région du centre-nord. Le président Damiba s'était même d'ailleurs rendu là-bas. On voit qu'il y avait du matériel important, des pick-up ont été retirés des mains des présumés terroristes, des munitions. Aussi récemment, la semaine dernière à Bourasso, où 39 présumés terroristes aussi ont été neutralisés. Donc c'est dans la boucle du Moun, dans les encablures de Nouna. On s'est dit que l'armée, effectivement, est en train de faire une certaine montée en puissance. mais elle va devoir communiquer davantage au niveau des populations parce qu'elle reconnaît qu'elle ne communique pas suffisamment. Donc quand on regarde ses actions et celle lors de jeudi dernier, ses frappes aériennes au niveau donc du Soum, on se dit qu'il y a une montée en puissance, il y a une certaine montée en tout cas en puissance de l'armée, Kader.
Ok, merci beaucoup Lamine Traoré pour toutes ces informations. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de cette édition. Plus tôt, c'est le commissariat départemental de Yaba dans la province du Nayala qui a été attaqué donc par des hommes armés dans la nuit du 27 au 28 mai. Selon plusieurs témoignages, ces hommes armés sont arrivés à bord de 3 véhicules pick-up accompagnés d'un nombre important de motos et munis de fusils PKMS et Kalachnikov. Pour ce qui est du bilan, on enregistre des dégâts matériels sur les murs du commissariat et des vitres brisées selon le site en ligne Le Faso. La porte principale a été forcée. Les assaillants ont replié aux environs de 2h du matin, a précisé le site. Justement, parlant de la situation sécuritaire, comment le Burkina Faso s'est-il retrouvé dans cette situation d'attaque terroriste en répétition? Oumarou Yaro, expert en police de proximité, apporte quelques explications. Il était l'invité de votre émission Dimanche Politique.
Il faut le dire, hein, le terrorisme se nourrit de la contradiction des États, de la fragilité des États. C'est vrai, quand on fait une analyse, on voit vu que depuis 2011 à nos jours, la situation s'est dégradée jusqu'à l'heure où nous parlons, liée effectivement à un certain nombre de facteurs. La question libyenne est revenue, mais il faut dire aussi qu'il y a la fragilité de nos États qui est intervenue. Et depuis lors, si vous vous rappelez, depuis 2011, en venant, nous aussi nous avions eu beaucoup de problèmes, notamment au sein de notre armée, il y a eu beaucoup de mutineries. Et je ne suis pas sûr si la situation se maintenait, qu'on n'allait toujours pas avoir ces situations-là. En plus de ces différentes mutineries, On a eu l'insurrection. Après l'insurrection, vous avez vu l'ensemble des problèmes que nous avons eu de 2011 à l'heure que nous parlons. Donc ces fragilités-là nourrissent en fait le terrorisme. C'est comme dans une famille. On dit quand une maison est lézardée, c'est en ce moment que les gens profitent pour entrer et faire tout ce qu'on veut. Donc tenant compte de ces différentes fragilités-là, je pense qu'on ne pouvait pas l'éviter. Au départ, la crise libyenne et récemment avec les problèmes sociaux, économiques et politiques que le Burkina a vécu, nous n'avons pas eu une ceinture forte pour pouvoir prévenir ces genres de choses-là. Il y a un moment, on luttait plutôt pour autre chose, pour asseoir les pouvoirs, on luttait pour pouvoir stabiliser un certain nombre d'institutions et l'un dans l'autre, ça fait le lit du terrorisme. Ajouté à cela, comme nous l'avons dit, il y a que certaines zones, quoi qu'on dise là, ont été vraiment beaucoup exclues. Hein. Il y a des zones vers le Sahel où il y a pas de route pour aller. Aujourd'hui même, la lutte est difficile à cause de... Ça a rattrapé tout le monde parce que tant qu'il n'y a pas d'infrastructure, tant qu'il n'y a pas de bonnes conditions de vie, et c'est difficile que les populations collaborent sur un certain nombre d'aspects.
Alpha Yago, porte-parole du mouvement patriotique burkinabé par rapport justement à la situation sécuritaire, estime qu'il faut dans une certaine mesure donner plus de temps aux autorités de la transition pour venir à bout du terrorisme. Il était aussi invité à votre émission Dimanche Politique. Suivez un extrait de ses propos.
La confiance, c'est un processus. Hein. Le régime est en place il y a à peine 4 mois. Je pense qu'il faut leur donner également le temps pour pouvoir prendre langue avec les différentes entités, les différentes communautés. En tout cas, là où il y a des problèmes spécifiques, je suppose que ça c'est déjà fait. Mais également prendre le temps de connaître le terrain, connaître les interlocuteurs, pouvoir serrer les différents problèmes en vue de pouvoir les traiter avec efficacité. Donc moi je pense qu'il ne faut pas perdre espoir de ce point de vue. Ceci dit, vous savez, souvent il faut, la question des terroristes, comme le disent certains, il faut éviter que le fantôme ne rentre dans la maison. Et une fois que le fantôme est dans la maison, il est difficile de le chasser. Donc vous comprendrez que souvent il y a des questions économiques derrière également ces questions de terrorisme et de grand banditisme, il faut le dire. Il y a des enjeux économiques qui font que c'est très complexe de résoudre certaines situations quand on ne prend pas en compte ces préoccupations. Et quand on prend en compte ces préoccupations, antinomie profonde entre les intérêts de ces groupes et ceux de l'État. C'est ça aussi la réalité qu'il faut avoir le courage d'évoquer. Et donc, de ce point de vue, comprendre que dans certaines zones comme Tiou ou dans d'autres localités, quand on prend en compte ces différents intérêts de ces groupuscules ou de ces groupes, il est difficile de pouvoir les traiter d'un seul coup. Il faut beaucoup de temps pour échanger, enfin, pour trouver la formule, je dirais. Il n'y a pas de formule magique, hein, sinon je pense que d'autres pays l'auraient appliqué avant nous. Voilà, il n'y a pas de formule magique.
Conflit foncier au Burkina Faso, c'est la crise entre la société immobilière Imurex et Zagrash, une autre entreprise immobilière, le goulot d'étranglement. La société immobilière Imurex accuse Zagrash d'avoir occupé illégalement son espace dans la zone de Witenga située à Koubri, à 25 km de la ville de Ouagadougou. Un mécontentement que l'entreprise Imurex n'a pas manqué d'exprimer et c'était lors d'une conférence de presse tenue hier à Ouagadougou. Elle demande simplement à Zagrash de quitter le titre foncier. Les détails avec Charles Da et Ibrahim Niaouné.
Le torchon brûle entre deux sociétés immobilières. Le contentieux foncier entre la société immobilière Imurex et Zagrash a pris une tournure très préoccupante. Tout serait parti de l'occupation de la zone de Witenga par la société Zagrash, une zone destinée pour les activités immobilières de l'entreprise Imurex, selon le consultant foncier Sédou Traoré, qui affirme que Zagrash use de la violence pour s'installer sur la zone.
On tout fait avec la police. On l'a décerné à la Mako.
Voilà, Jean-Pierre.
Jean-Pierre, 2 mois de prison.
Jean-Pierre.
Et au jugement, il a été libéré. Légitime défense. Son arme a une autorisation. Aujourd'hui, dans les mains du parquet. Donc ça veut dire Zagrash est venu ici faire la force à Imurex.
Selon le conférencier Ousmane Ouédraogo, des démarches de médiation ont été entreprises pour ramener la société Zagrash à la raison avec des preuves à l'appui. Lesquelles preuves qui attestent que Imurex s'est implanté depuis 2011 dans la zone.
J'ai joué un rôle de médiation depuis longtemps là. Et actuellement, moi je crois que tout ça même ça m'étonne. Parce que normalement, il ne devait même pas avoir de polémique encore dans cette histoire. Parce que l'histoire est assez claire maintenant. Entre Imurex et puis surtout Zagrash. C'est assez clair, c'est limpide comme de l'eau. Parce que le problème sur le terrain est assez clair. La population de Witenga même est tranquillisée maintenant.
Pour une bonne résolution de ce litige, le consultant foncier Sirou Traoré a aussi interpellé les autorités compétentes à la matière à être regardantes sur les opérations de Zagrash sur la zone et les invite à jouer pleinement leur rôle de réglementation des titres fonciers au grand bonheur des citoyens.
Là, je profite d'interpeller le ministre de l'administration territoriale et le ministre de l'urbanisme de regarder l'aménagement de M. Zagrash pour lui dire de déterrer ses bornes pour en tout cas ne pas incriminer des honnêtes citoyens. Si des gens détiennent des fiches d'attribution aujourd'hui, c'est la faute de notre administration.
La société immobilière Imurex est une société qui a obtenu son agrément pour l'exercice de ses activités de promotion immobilière au Burkina Faso depuis le 15 janvier 2014. Le promoteur a construit 2 villas et des châteaux d'eau pour la population de Witenga, a-t-il fait savoir le consultant foncier Sédou Traoré.
Autre chose dans ce journal, le ministre de l'Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques, Innocent Kiba, a procédé au lancement officiel de la campagne agricole de la saison humide 2022-2023 et du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, phase 2. C'était vendredi dernier à Gourgou, dans la commune de Tenkodogo, en présence des autorités locales et des partenaires techniques et financiers. Le compte-rendu, Ibrahim Bayili.
La campagne céréalière 2021-2022 a été mauvaise et a entraîné des déficits céréaliers dans 19 provinces de notre pays. Le bilan définitif, en effet, fait ressortir un déficit brut de plus de 539 tonnes de céréales, représentant 12% des besoins et un disponible apparent de 211 kg par habitant et par an. Pour contenir la détérioration de la situation alimentaire, le gouvernement a entrepris plusieurs actions inscrites dans le plan de réponse et de soutien aux personnes vulnérables. Parmi ces actions figure la distribution gratuite des vivres, l'ouverture progressive des points de vente des céréales à prix subventionné au profit des personnes vulnérables et les appuis multiformes au profit des personnes déplacées internes. Pour la présente campagne qui s'annonce, il est attendu
5 398 000 tonnes de céréales, 1 798 000 tonnes de culture de rente, 897 000 tonnes d'autres cultures vivrières.
Et pour atteindre ces objectifs, le gouvernement ne restera pas les bras croisés.
le gouvernement mettra à la disposition des braves producteurs et productrices, à prix subventionné dans l'ensemble des 13 régions, environ 27 000 tonnes d'engrais minéraux, 4 000 tonnes de Burkina phosphate, 3 600 tonnes de semences de variétés améliorées, 1138 équipements motorisés, 1684 équipements à traction animale, 17 000 litres de produits phytosanitaires pour la protection des cultures. Des actions de renforcement de la résilience des productions agricoles sont également prévues au profit des acteurs du monde rural.
Cette cérémonie a consacré le lancement du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, PRAPS phase 2, un projet que nous décrit son coordinateur.
Le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, phase 2 du Burkina Faso, s'inscrit donc dans l'opérationnalisation de la déclaration de Nouakchott qui s'est tenue donc en 2013, où effectivement les États sahéliens ont trouvé nécessaire quand même de mener des activités conjointes afin donc de faire face à la gestion durable des ressources naturelles et à la question de la mobilité transfrontalière donc du bétail. Bon, la première phase s'est déroulée donc de 2015 à 2021. Et les résultats probants qui ont été donc obtenus à travers cette première phase ont motivé en fait les bailleurs de fonds, eux le Burkina Faso donc, à formuler une deuxième phase, ce qui a permis effectivement donc le lancement aujourd'hui de cette deuxième phase qui va innover par rapport à la première en termes donc d'activité.
C'est donc parti pour la campagne agricole de la saison humide 2022-2023 et le projet d'appui au pastoralisme au Sahel phase 2 Burkina Faso sous le thème intégration des systèmes de production agricole, pastorale et halieutique pour une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable au Burkina Faso.
Hors de chez nous, en Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé a officiellement reçu son passeport. Acquitté par la Cour pénale internationale depuis le 31 mars dernier, Charles Blé Goudé est rentré aujourd'hui en possession de son passeport ivoirien après plusieurs mois d'attente. Depuis le 31 mars 2021, la chambre d'appel de la Cour pénale internationale, CPI, avait acquitté Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé de toutes les charges de crimes contre l'humanité prétendument perpétré en Côte d'Ivoire en 2010 et 2011. Si Laurent Gbagbo a regagné la Côte d'Ivoire le 17 juin 2021, l'ancien ministre de la Jeunesse, lui, est resté coincé à La Haye sans passeport. Après des mois d'intenses tractations, l'ancien chef de file des Jeunes Patriotes a enfin reçu des autorités ivoiriennes son passeport ivoirien et pourra éventuellement regagner son pays.
Omega Sport.
La finale de la Coupe du Faso 2022 a livré son verdict hier au terme d'une rencontre âprement disputée entre l'AS Douane et l'USCO de Banfora. À l'arrivée, ce sont les douaniers qui succèdent à l'ASFA Yenenga en s'imposant 1-0. Cette finale a été présidée par le Premier ministre Albert Ouédraogo, Ibrahim Bayili et Somina Traoré pour le compte-rendu.
Dès le coup d'envoi de cette finale, dirigée par un trio ivoirien conduit par Bienvenu Senko, ce sont les douaniers qui attaquent pied au plancher. La première alerte est l'œuvre de Michel Batebo qui s'écroule dans la surface de réparation, mais l'arbitre de la partie lui colle un carton jaune pour simulation. Les douaniers poursuivent leur offensive tout azimut, mais la défense de l'USCO ne cède pas. Les unionistes, conduits par leur vite-votant attaquant Mohamed Dao, tiennent le coup et vont même bénéficier d'un coup franc qu'ils se chargera d'expédier dans les nuages. Les Gabelous de l'AS Douane continuent leur domination jusqu'à la 39e minute. Sur ce coup franc de Valentin Nouma, Michael Ibe ouvre le score sous le regard de l'ex-entraîneur national Kamou Malo. 1-0, ce sera le score à la pause. À la reprise, l'USCO jette son va-tout dans la bataille en procédant à quelques changements. Elle va titiller la défense adverse sans véritablement l'inquiéter. C'est donc sur ce score de 1-0 que les douaniers s'imposent et enlèvent leur premier trophée majeur. Le chef du gouvernement apprécie la rencontre.
Nous avons assisté à une très belle rencontre, un match très enlevé et nous avons senti un engagement des deux équipes a gagné. Et ça, c'est une très bonne chose. Et donc, je voudrais, au nom du président du PASO, féliciter l'équipe de l'AS Douane pour avoir remporté cette coupe. Bien entendu, l'équipe de Lusco, qui est en deuxième division, qui est en 2-2, n'a pas du tout démérité, parce qu'elle s'est battue jusqu'au bout. Mais le sort a voulu qu'on ait un vainqueur. Et pour cela, donc, je voudrais féliciter cette équipe-là. Et j'ai constaté également l'engagement, l'engouement du public quant à cette coupe. Ce qui veut dire que ce public-là est déterminé donc en ce qui concerne le football. Et au niveau du gouvernement de la transition, nous réitérons notre engagement à soutenir le sport en général et le football en particulier, à accompagner le football pour un meilleur développement.
Les douaniers succèdent donc à la Soyenega et repartent avec un chèque de 10 millions de francs CFA, plus le trophée et des médailles en or. Lusco se contente de 7 500 000 francs CFA et des médailles. Rendez-vous l'année prochaine pour l'édition 2023.
La revue de presse.
Les groupes armés terroristes se dirigent-ils vers le centre-ouest? Une question qui interpelle les quotidiens burkinabés car la région a enregistré sa première attaque ce week-end. Et de quoi la junte a-t-elle peur, se demandent nos confrères à propos de ce qu'ils qualifient d'embastillement de l'ancien président Roch Kabore. La revue de presse de ce lundi 30 mai est présentée par Brigitte Yoda.
Le poste de gendarmerie de Tiogo sur l'axe Koudougou-Dédougou a été attaqué par les forces du Mal dans la nuit de samedi à dimanche. Sauf erreur ou omission, c'est la première fois qu'une attaque terroriste a lieu dans la région du centre-ouest, analyse le quotidien pour qui il s'agit peut-être d'un repli des hommes armés qui ont fui les attaques des FDS des 26 et 27 mai 2022. Et c'est probablement à cause de l'offensive des forces de défense et de sécurité que les terroristes ont décidé de nous rendre à choix la monnaie de la pièce lorsque nous leur infligeons une défaite, commente l'Express du Faso. Selon le journal Bobolais, il est nul besoin d'être un observateur avisé ou un devin pour savoir que les attaques répétitives et sanglantes de Gorgadji et Madjouari sont consécutives à l'offensive des forces de défense et de sécurité du 21 mai dernier à Bourzanga qui a fait de nombreux terroristes tués. C'est pourquoi le quotidien pense que si l'attaque de Tiogo est un message à l'endroit des FDS-VDP, elle interpelle aussi les premiers responsables du pouvoir actuel qui ont l'obligation de produire encore plus de résultats dans la lutte contre le terrorisme. Il faut aller au combat avec tout ce que cela va comporter comme perte en vie humaine, encourage l'Express du Faso, car dit-il, les terroristes ne sont pas plus nombreux que les Burkinabés. Et à propos des appels à la libération totale et réelle de Roch Kabore par des OSC le week-end, l'Obs précise à sa une que le meeting de protestation s'est mué en AG, Assemblée Générale. Un plan B suite à l'interdiction de la manif par le haut commissaire du Kadiogo pour des raisons d'ordre sécuritaire. Sur cette question toujours, le pays parle d'embastillement de l'ancien président et se demande pour quelles raisons l'empêche-t-on d'aller et de venir sans contrariété. N'étant pas dans le secret des dieux, le journal des 1200 logements épilogue. L'enfant de Thuiré, en parlant de Roch Kabore, en sait certainement beaucoup sur la responsabilité de certains dignitaires de la transition. Des révélations sur les circonstances de son départ du pouvoir, sur le dossier Inata et sur d'autres affaires ultra-sensibles pourraient éclabousser certains de ses tombeurs, ajoute le pays, pour qui le président d'Amiba risquerait gros, en effet, si des choses compromettantes pour lui ou pour ses lieutenants sortaient de la bouche de son prédécesseur. Le régime actuel devrait éviter de trébucher et de tomber là où son prédécesseur s'est cassé les côtes en ostracisant ceux qu'il a chassés du pouvoir, croyant ou faisant croire que ces derniers sont à la base de tous les malheurs du pays, conclut notre confrère.
Et c'est la fin de ce journal. Bonne suite de programme sur Radio Omega.
Radio Omega, l'info en direct.